Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Neisnar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les miscellanées culinaires de Mr. Schott » est un recueil de Ben Schott traduit en français par Boris Donnet et publié chez Alia en 2007. À la différence d'un livre de cuisine classique, l'ouvrage ne cherche pas à enseigner des recettes de manière systématique ni à construire un manuel pratique. Il rassemble plutôt des listes, notations, curiosités et fragments liés à la gastronomie, à ses usages, à son vocabulaire et à ses périphéries culturelles. Cette logique de compilation fait le charme du livre, elle transforme des détails apparemment secondaires en objets de lecture, à part entière. Le texte français a aussi une particularité importante, certains éléments ont été adaptés ou remplacés pour mieux résonner avec le lecteur francophone. Le livre s'adresse donc moins à celui qui cherche des modes d'emploi culinaires qu'à celui qui apprécie l'érudition discrète, l'assemblage de savoirs hétérogènes et le plaisir de feuilleter une culture alimentaire élargie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un recueil de fragments culinaires plutôt qu'un manuel de recettes, le livre se distingue d'abord par sa forme. Il n'organise pas la cuisine autour d'un programme pédagogique, d'un ordre technique ou d'une progression de recettes. Il adopte le principe de la miscellanée, c'est-à-dire de la compilation de pièces brèves, de listes et de notations disparates. Ce choix change complètement l'expérience de lecture, on y apprend pas seulement à cuisiner, on apprend à regarder la cuisine comme un champ de savoir, d'objets aides pratiques. L'intérêt ne vient donc pas de l'exhaustivité, mais de la variété. Chaque entrée fonctionne comme une micro-unité autonome qui peut évoquer une recette, une boisson, un usage de table ou une précision lexicale. Cette structure par fragments donne au livre une identité hybride, entre almanach, dictionnaire curieux et carnet de référence. Elle explique aussi pourquoi l'ouvrage séduit les lecteurs qui aiment butiner plutôt que suivre un parcours linéaire. Le livre valorise ainsi la lecture discontinue, la surprise et l'association libre entre sujets alimentaires, au lieu d'imposer une démonstration continue. Deuxièmement, l'érudition gastronomique comme plaisir de la liste et du détail. L'une des forces du livre est de traiter le détail culinaire comme un objet digne d'attention. Les listes ne servent pas seulement à classer, elles donnent de la consistance à des informations qui, dans un livre plus conventionnel, seraient jugées accessoires. Cette approche crée une érudition légère, fondée sur le plaisir de savoir des choses précises sur la nourriture, les boissons, les noms, les usages et les catégories. Le livre montre qu'autour de la cuisine existe tout un monde de distinctions, de termes spécialisés et de références culturelles. Ce n'est pas une érudition sèche. Elle est ludique, parfois décalée, mais toujours structurée par une véritable curiosité pour la culture alimentaire. En valorisant les détails, l'ouvrage rappelle que la gastronomie ne se réduit pas à la préparation des plats, elle comprend aussi le langage, les rites, les objets et les conventions sociales qui l'entourent. Cette perspective donne au livre une portée plus large qu'un simple recueil anecdotique, car elle transforme les petits savoirs culinaires en forme de culture générale appliquée. Troisièmement, une gastronomie élargie à la langue, aux usages et à la culture, le livre ne se limite pas aux aliments ou aux recettes. Il explore la cuisine comme un ensemble de pratiques culturelles qui inclut les mots, les classements, les manières de table et les habitudes collectives. Cette ouverture est importante, car elle fait passer le lecteur d'une vision domestique de la cuisine à une vision culturelle plus ample. On y trouve une attention au vocabulaire gastronomique et à ses nuances, ce qui montre que nommer un plat, une boisson ou une préparation revient déjà à interpréter un monde social. Le livre s'intéresse aussi aux usages, ce que l'on sert, comment on le classe, comment on l'appelle, ce qui relève de la tradition ou de l'exception. En ce sens, il appartient à une forme d'anthropologie légère de l'alimentation. Il ne théorise pas longuement, mais il donne à voir la densité culturelle du fait culinaire. Cette dimension le distingue d'un simple recueil de curiosités alimentaires, il suggère que manger, boire et nommer les choses à table sont des actes porteurs d'histoire, de normes et de conventions partagées. Quatrièmement, une édition française adaptée pour éviter l'effet de décalage culturel. La version française du livre n'est pas une simple reproduction mécanique de l'édition originale anglaise. Les sources indiquent que certains articles ont été librement transposés, d'autres écartés, et que des contenus originaux en français ont été ajoutés. Ce point est essentiel pour comprendre l'identité de l'ouvrage, la traduction ne se contente pas de déplacer un texte, elle le réajuste culturellement. Dans un livre fondé sur les références, les listes et les particularités gastronomiques, le passage d'une langue à l'autre peut créer des zones d'opacité pour le lecteur. L'adaptation permet donc de préserver l'effet recherché, à savoir la curiosité immédiate et le plaisir de reconnaissance. Cette stratégie éditoriale montre que l'ouvrage repose sur une connaissance fine des attentes du public francophone. Elle explique aussi pourquoi le livre ne doit pas être lu comme un simple import britannique, mais comme une version retravaillée pour une autre culture de lecture. le résultat est un objet hybride, à la fois fidèle à l'esprit de Benchot et reconfiguré par le travail de Boris Donnet. En dernier lieu, un livre pour les curieux qui aiment feuilleter la cuisine comme un atlas de savoir. L'intérêt du livre tient enfin à son public implicite. Il ne vise pas prioritairement les cuisiniers en quête de technique, mais les lecteurs curieux, amateurs de gastronomie au sens large, de culture générale et de lecture en fragments. Son format court, sa densité de notation et son absence d'illustration en font un objet de consultation plus qu'un ouvrage d'apprentissage. On peut y entrer par hasard, y revenir par étapes ou simplement y chercher une information insolite. Cette disponibilité à la lecture partielle constitue sa vraie utilité, il fonctionne comme un atlas de petites connaissances, où la nourriture sert de point d'entrée des faits, des noms et des classifications. Le livre se distingue ainsi des recueils de recettes ou des essais culinaires ambitieux, car il ne cherche ni à convaincre ni à démontrer. Il propose une promenade érudite et plaisante dans le voisinage de la table. C'est précisément cette modestie formelle, combinée à une vraie précision de ton, qui explique son attrait durable pour les lecteurs attachés au livre des curiosités. En conclusion, les miscellanées culinaires de Mr. Shot s'adressent surtout aux lecteurs qui apprécient les livres de curiosités, les objets éditoriaux singuliers et les approches non linéaires de la cuisine. Il conviendra à ceux qui aiment les listes, les micro-savoirs, les détours lexicaux et les références culturelles autour de la table, plus qu'aux personnes en quête d'un guide pratique de recettes. Son intérêt est intellectuel autant que ludique, il fait apparaître la gastronomie comme un réseau de mots, de classifications, d'usages et d'anecdotes. C'est aussi ce qui le distingue de nombreux livres du même genre. Là où un livre de cuisine classique organise une progression utile, celui-ci cultive la discontinuité et la surprise. Là où un essai culinaire développe une thèse, il accumule des fragments soigneusement choisis. Sa version française, adaptée par Boris Donnet, renforce encore cette singularité en ajustant les références aux lecteurs francophones. Le résultat est un ouvrage bref, érudit et atypique, qui transforme la culture alimentaire en plaisir de lecture autonome. Si vous souhaitez soutenir Boris Donnet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !